La croissance illimitée n'est pas possible et par conséquent nous devons changer. Cette société de croissance est condamnée et nous devons en changer. Toutefois, cette nécessité n'est pas forcément une mauvaise nouvelle si l'on suit en tout cas le message d'Ivan Illich tel qu'il a été résumé au moment de sa mort par un de ses disciples, Jean-Pierre Dupuis, dans un bel article du Monde qui s'intitulait « Illich, Ivan Illich ou la bonne nouvelle ». Car la bonne nouvelle, effectivement, c'est la nécessité d'une société de décroissance. La bonne nouvelle, je cite, est que ce n'est pas d'abord pour éviter les effets secondaires négatifs d'une chose qui serait bonne en soi qu'il nous faut renoncer à notre mode de vie, donc à la croissance. Comme si nous avions à arbitrer entre le plaisir d'un mets exquis et les risques afférents. Non, c'est que le mets est intrinsèquement mauvais et que nous serions bien plus heureux à nous détourner de lui. Vivre autrement pour vivre mieux. Peut-être, mais encore est-il qu'il faut arriver à convaincre les drogués de renoncer à leur drogue. Ça, c'est une autre affaire, on essaiera de l'évoquer en conclusion. Alors, la société de croissance n'est pas souhaitable pour au moins trois raisons. Elle engendre une montée des inégalités et des injustices. Elle crée un bien-être largement illusoire. Enfin, elle ne suscite pas, même pour les nantis, une société conviviale, mais bien plutôt une anti-société malade de sa richesse. L'élévation du niveau de vie dont pensent bénéficier la plupart des citoyens du Nord est de plus en plus une illusion. Certes, cette illusion repose sur le fait que nous dépensons toujours plus en termes d'achat de biens et de services marchands, donc nous consommons toujours plus. Mais on oublie d'en déduire l'élévation supérieure des coûts. Celle-ci prend des formes diverses, à la fois marchandes et non marchandes. Non marchandes, comme la dégradation de la qualité de la vie, on ne peut pas quantifier, mais que l'on subit, la dégradation de la qualité de l'air, de l'eau, de l'environnement. Marchand, les dépenses de consommation et de réparation nécessitées par ces dégradations, médicaments, transports, loisirs, etc., qui sont rendues nécessaires par la vie moderne, et aussi l'élévation du prix des denrées raréfiées, l'eau en bouteille, l'énergie, les espaces verts, etc. Alors, pour tenter de rectifier en quelque sorte notre critère de niveau de vie ou de bien-être, certains économistes ont tenté de faire un indicateur authentique de niveau de vie ou de progrès. Genuine Progress Indicator, c'est le cas d'un économiste célèbre parce qu'il a quitté la Banque mondiale, non pas Stiglitz, mais 10 ans avant, Hermann Daly, un peu moins connu, qui corrige ainsi le Gross National Product, le produit intérieur brut, des pertes dues à la pollution et à la dégradation de l'environnement. Alors c'est intéressant tout de même, bon, bien sûr ça n'est qu'un calcul mathématique de statistique, de cuisine statistique, mais cette cuisine quand même rigoureuse à partir des bases qui s'est faite, qui a établi pour les États-Unis, pour un certain nombre de pays, mais malheureusement il ne s'est encore trouvé personne, à ma connaissance, en France pour faire un tel calcul. Donc je pense que les conclusions seraient à peu près identiques. Alors, ce que montre Hermann Daly, c'est que, alors que aux États-Unis, en gros, si nous mettons le temps, l'année pour les États-Unis, le point culminant en quelque sorte, c'est 1970, alors qu'on a un PNB, bon, pour simplifier, qui continue à croître et embellir, eh bien, à partir des années 70, on voit le Genuine Indicator, le Genuine Progress Indicator, qui diminue irrésistiblement. Autrement dit, on consomme toujours plus, mais on a de moins en moins de satisfaction réelle, si on tient compte de l'évaluation même des économies externes engendrées par la croissance. On peut donc dire que la croissance est un mythe même à l'intérieur de l'imaginaire économique de bien-être, sinon de la société de consommation. On a même été plus loin. Bon, on a toujours, en tant que, puisqu'officiellement j'ai fait toute ma carrière, j'ai fait ma carrière puisque maintenant elle est achevée, on ne l'a pas dit, mais je suis professeur émérite, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Donc, en tant qu'économiste, on a toujours une certaine répugnance à parler de choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas saisissables rigoureusement comme le bonheur. On préfère la consommation, le produit, c'est évaluable. Mais enfin, puisque les sociétés modernes se sont données comme objectif le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, il n'est pas indécent de parler du bonheur, même pour un économiste. Et donc, Robert Lane, dans un ouvrage tout à fait remarquable, The Loss of Happiness in Market Democracies, donc la perte du bonheur dans les démocraties de marché, a essayé de calculer, à partir d'une somme faramineuse d'indices, et depuis les taux de suicide, le nombre d'emprisonnements, etc., ce qu'il appelle le « subjective well-being », le bonheur personnel dans les sociétés libérales. Et sa conclusion est que la progression du niveau matériel de vie aux États-Unis est accompagnée d'une baisse inéluctable du bonheur réel de la majorité des citoyens américains et due essentiellement à la dégradation effective des rapports humains fondamentaux, ce qui illustre assez bien ce film qui vient de sortir sur nos écrans, Elephant, n'est-ce pas, qui reprend le même thème que Ballad for Columbine. Donc ce que Lane nomme companionship, hein, et qui au fond constitue à peu près ce qu'on appelle les biens relationnels. Ça a été d'ailleurs illustré et vécu en quelque sorte par l'ancien ministre du travail de Clinton, n'est-ce pas, Robert Reich, qui a démissionné, ça avait fait du bruit, il a démissionné du jour où il s'apercevait que bien sûr il gagnait de plus en plus tout en travaillant beaucoup, etc., mais qu'il n'avait plus de vie de famille et qu'il perdait, et il faisait le rapport, effectivement, qu'au fur et à mesure que les biens marchands augmentaient, les biens relationnels diminuaient et que son bonheur diminuait. Tout cela, et on pourrait en rajouter, tout cela ne suffit malheureusement pas pour nous amener à quitter le bolide qui nous mène droit dans le mur, et à nous embarquer dans une direction opposée. Il convient néanmoins de penser une société de croissance, et si nous voulons tenter de bifurquer pour atteindre cette société de croissance, essayer de la penser suffisamment séduisante pour amener nos contemporains à renoncer à leur drogue de la consommation, de la croissance et de la mort.